It's Morning Edition from NPR News.
That's it, he's on Peter House.
Hey, I'm Radio
France Inter, le 18-20.
Quelles sont les nouvelles de Kim Jong-un? Comment la Corée du Nord a-t-elle traversé cette période de Covid? Où en sont les rapports qui deviennent très très froids entre le Nord et le Sud? Que faut-il penser de la montée dans les dossiers de la sœur de Kim? Où en est l'arsenal nucléaire? Intrigant pays que la Corée du Nord, et nous y allons dans une minute. Le bruit du monde essaie de faire un peu de silence, tiens, pour le coup ce soir. Nous allons à Amsterdam, qui est comme toutes ces villes ultra touristiques. Elle voudrait que son monde d'après soit moins bruyant, moins aviné, moins en vitrine, moins assommé aussi par les pétards. Angélique Bois nous racontera. Vous ferez également connaissance avec un jeune Sénégalais qui a confié son journal sonore à Caroline Gillet. 18h50, Le Monde selon Trump et Grégory Phillips, avec un Trump qui repart en campagne, mais se tient à une rampe, bien fermement. Et puis 18h56, Le Monde d'après, signé Franck Madvon ce soir, où comment la liberté de la presse a été très confinée, elle aussi, dans certains endroits ces dernières semaines. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Bonsoir Antoine Bondaz.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialisée notamment dans la Corée du Nord. Avant de nous pencher effectivement sur les rapports un peu compliqués, de plus en plus compliqués entre le Nord et le Sud, essayez de voir un petit peu quelle est l'histoire avec la sœur de Kim Jong-un. Moi, j'aimerais savoir d'abord comment la Corée du Nord a traversé le Covid. Alors, est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on peut avoir une réponse ou
alors,
pas?
On a très peu d'informations. Officiellement, il y a eu zéro cas et zéro mort en Corée du Nord. Il faut bien comprendre que le pays a fermé ses frontières très rapidement. Mmh. Ça a été premier pays à le faire fin janvier, que des mesures drastiques de distanciation sociale et de mise en quarantaine, notamment des provinces à la frontière avec la Chine, ont été réalisées. Puis la Corée du Nord a une expérience dans les épidémies. Il y a une épidémie de tuberculose qui fait rage depuis de nombreuses années. Et donc, ils ont, entre guillemets, un appareil sanitaire qui est évidemment en partie obsolète, mais qui est habitué à gérer de telles crises. Alors, effectivement, les chiffres officiels sont difficiles à croire, mais est-ce qu'il y a eu une flambée épidémique comparable à ce qu'il y a pu avoir à Wuhan ou dans les pays européens? On a très peu d'informations, et les diplomates qui étaient à l'époque sur place en ont également extrêmement peu, puisqu'ils ont été confinés pendant plus d'un mois, au mois de février, au début du mois de mars.
En même temps, on peut imaginer au fond, frontières fermées, très peu de mélange, puisqu'il n'y a pas d'aller-retour entre la Corée du Nord et le reste du monde. On peut imaginer zéro mort, effectivement, zéro cas, ça paraît vraiment très très peu, mais on peut imaginer qu'ils ont été relativement épargnés.
Effectivement, puisqu'encore une fois, des mesures drastiques ont été prises extrêmement rapidement, qu'il y a eu également une aide venant de Russie, venant de Chine, et que la Corée du Nord n'est pas la France, ne sont pas les États-Unis. Il n'y a pas de moyens pour les personnes de se déplacer très largement dans le pays. Et donc, le confinement, les mesures de distanciation et autres ont pu permettre d'éviter une flambée épidémique qui aurait fait, elle, de nombreux morts s'il y en avait une.
Mais alors, l'ONU dit quand même que les gens ont eu faim. Précisément parce qu'avec la frontière de la Chine fermée, alors vous disiez que la Russie continuait à faire du commerce, un peu la Chine aussi, mais enfin tout l'appareil productif vient de Chine, enfin les denrées alimentaires, etc. Donc est-ce que les gens ont eu faim?
Alors on a aussi là assez peu d'informations. Les récoltes avaient été relativement bonnes sur l'année 2019, mais la Corée du Nord continue d'importer massivement des biens, notamment agricoles, de Chine. Or la fermeture des frontières a eu de fait un impact sur les importations. Si le pétrole a pu continuer à arriver, notamment par les pipelines, les biens physiques, notamment se déplaçant à travers les principaux ponts reliant la Chine et la Corée du Nord, eux ont eu beaucoup plus de mal. Et donc, effectivement, que ce soit l'UNICEF, que ce soit le Programme alimentaire mondial, est pessimiste sur la situation alimentaire. Et il faut rappeler que chaque année, par exemple, les dons ou les financements nécessaires demandés par l'ONU ne sont pas atteints. En 2018-2019, ce n'était que 50% des financements qui étaient atteints au niveau de l'ONU.
Mais est-ce qu'il y a une vraie crainte là-dessus? On n'est pas dans une situation de famine quand même, on ne peut pas dire ça. On n'est pas au milieu des années 90, ou est-ce qu'il y a une vraie réelle crainte d'un vrai problème de nutrition?
Alors pour l'instant, il n'y a aucun signe d'une famine comparable à ce qu'il y a eu dans les années 90. Il y a une malnutrition endémique en Corée du Nord, notamment dans certaines provinces. Les provinces les plus éloignées de Pyongyang, notamment au nord-est. Et donc là, il y a une inquiétude qui est régulière, notamment sur des populations vulnérables, que ce soit les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées. Et c'est là où le rôle notamment des organisations non gouvernementales, des ONG, sont fondamentales. Il faut rappeler par exemple que les quatre ONG en permanence en Corée du Nord, qui ont un siège en Corée du Nord, sont toutes européennes et il y a deux Françaises.
Alors Antoine Bourdaz, on a vu aussi que les relations, on a vu au fond la Corée du Nord se refermer encore un peu plus, si tant est que ce soit possible. On a vu les relations avec la Corée du Sud se tendre terriblement. Ça date pas d'hier, ça date depuis le grand rendez-vous qu'il y a eu, très symbolique. Les choses sont pas restées dans le vert, on va dire, très longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses se durcissent de manière aussi violente, en fait?
Il y a deux éléments qui sont en train de se produire. Premièrement, la Corée du Nord considère que sa stratégie, développée à partir de 2018, qui a été de se rapprocher de la Corée du Sud, notamment in fine pour se rapprocher des États-Unis et essayer d'obtenir des concessions de la communauté internationale, a échoué, puisqu'il n'y a aujourd'hui aucune levée des sanctions internationales et qu'il n'y a eu aucune concession majeure vis-à-vis de la Corée du Nord. Le deuxième point, c'est que la crise aujourd'hui posée par le coronavirus et la fermeture des frontières fait qu'il y a de fait une crise économique en Corée du Nord et le besoin de reprendre entre guillemets cette dialectique de l'ennemi. Et quel meilleur ennemi aujourd'hui que la Corée du Sud, un pays qui a fait beaucoup vis-à-vis de la Corée du Nord, un président qui est pro-engagement vis-à-vis de la Corée du Nord et qui ne peut pas se permettre de critiquer très ouvertement Kim Jong-un. Choisir la Corée du Sud, entre guillemets, c'est choisir l'ennemi le plus
adéquat, le plus facile
pour non seulement détourner une partie de l'attention des élites en Corée du Nord et puis, encore une fois, reprendre cette logique d'un État assiégé qui ferait face à une pression extérieure.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que le fameux accord de Panmunjom, tous ces moments de soft power aussi, où on a vu pendant les JO la sœur, d'ailleurs, on y viendra, se déplacer, etc. Est-ce que ça veut dire que tout ça est totalement caduque aujourd'hui ou pas?
Alors, la Corée du Sud a utilisé de nombreux leviers en 2018, vous l'avez rappelé, la diplomatie sportive, la diplomatie culturelle, la diplomatie même humanitaire et
on
autres.
On a fait quelques allers-retours aussi.
Il y a eu de nombreux allers-retours, il y a eu trois sommets intercoréens en 2018. On fête aujourd'hui même le 20e anniversaire, par exemple, du premier sommet intercoréen. Et puis, depuis, il n'y a plus rien. Plus rien, puisque la Corée du Sud n'a plus de levier disponible. La Corée du Sud ne peut pas reprendre la coopération économique avec la Corée du Nord du fait des sanctions internationales. Et côté nord-coréen, les échos qu'on a, notamment au plus haut niveau, lorsque, avant la crise du coronavirus, on rencontrait les officiels nord-coréens, c'est qu'ils ont une exaspération vis-à-vis de la Corée du Sud. Ils considèrent que le rôle de la Corée du Sud, qui était double, c'est-à-dire de faire des concessions, mais aussi de servir d'intermédiaire avec les États-Unis, ce rôle-là, la Corée du Sud ne l'a plus, et la Corée du Nord peut donc reprendre cette hostilité vis-à-vis de son voisin.
Mais est-ce que ça veut dire, au fond, que si on essaie de se demander qui est responsable de ça, est-ce que, in fine, ce sont les États-Unis au fond, parce que c'est eux aussi qui obligent, on va dire, la Corée du Sud à être pieds et poings liés. Est-ce qu'on le dit comme ça ou c'est un peu facile?
Il est difficile de trouver des responsabilités. Ce ne sont pas les États-Unis qui imposent les sanctions à l'ONU, c'est le Conseil de sécurité. La Russie et la Chine ont appelé à une levée partielle des sanctions, mais les États-Unis, le Royaume-Uni et la France s'y opposent, puisqu'il n'y a eu aucune avancée concrète en termes de dénucléarisation. Et là, il est très important de rappeler que le programme nucléaire et balistique nord-coréen se poursuit et que même s'il n'y a pas d'essai nucléaire, même s'il n'y a pas d'essai balistique à longue portée, toutes les capacités nord-coréennes sont en train de s'accroître.
Mais on dit même qu'il y avait une rumeur qui disait, qui parlait d'un essai balistique assez imminent, ne serait-ce que pour marquer le coup. Est-ce que ça a été réel et tangible, ça, ou pas?
Alors, il y a eu de nombreux essais balistiques à courte portée en 2019 et depuis le début de l'année. Un nombre extrêmement important, puisqu'il y en a eu plusieurs dizaines. Là, ce qui est très important côté nord-coréen, c'est qu'on a un accroissement des capacités en termes de tir de précision, en termes de mobilité des vecteurs, et notamment des missiles à courte portée. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour la Corée du Sud ou pour les États-Unis. Mais là encore, on a une double dimension, une dimension politique. Entre guillemets, circuler, il n'y a rien à voir, puisque Donald Trump, par exemple, ne hausse pas la voix. Et puis, de l'autre côté, une dimension technique avec un accroissement des capacités.
Alors, effectivement, Donald Trump ne hausse pas la voix, mais est-ce que les Américains cherchent toujours à négocier pour faire oublier leur échec du sommet d'Hanoï, au fond? Est-ce qu'ils poussent, et c'est la Corée du Nord qui veut pas en entendre parler, ou est-ce qu'on ne se parle plus du tout de part et d'autre?
Sur la question de Hanoï, la Corée du Nord est souvent présentée comme la plus grande perdante du sommet, puisque Kim Jong-un est venu jusqu'au Vietnam et n'a rien obtenu. Cela a eu des conséquences, notamment politiques, en Corée du Nord, puisque sa petite sœur, Kim Yo-jong, avait été sortie, notamment du bureau politique à l'époque. Ce qui est très important, c'est qu'aux États-Unis, Donald Trump a atteint son objectif. Son objectif était d'apaiser les relations, entre guillemets, avec la Corée du Nord, et de différencier la période dans laquelle il est arrivé au pouvoir, où il y avait de nombreux essais et une rhétorique belliciste, à la situation actuelle où il n'y a plus d'essais stratégiques, entre guillemets, et des propos qui sont beaucoup plus modérés entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et donc le président Trump n'a pas beaucoup d'intérêt à rouvrir le dossier et on le voit, ils n'en parlent quasiment plus. Côté nord-coréen, c'est un peu différent. Les nord-coréens considèrent qu'ils ont fait des concessions, peut-être cosmétiques, mais qu'ils en ont fait, et que les États-Unis n'ont pas fait la réciproque.
Est-ce qu'on peut imaginer stratégiquement que Kim ait envie de se rappeler au bon souvenir de Trump ? On est en pleine campagne électorale, ça va monter crescendo pour la campagne aux États-Unis. Est-ce que la Corée du Nord peut avoir envie de se rappeler au bon souvenir des Américains avec un ou deux essais balistiques ?
Je pense qu'il est peut-être encore un peu tôt pour anticiper ce type d'essai stratégique, entre guillemets, que ce soit un essai nucléaire ou un essai balistique à longue portée, puisque, entre guillemets, même si la Corée du Nord ne va pas faire l'élection présidentielle américaine, la Corée du Nord peut influencer la politique des États-Unis. Or, le président Trump est le moins pire des présidents pour la Corée du Nord. Il est arrivé au pouvoir, par exemple, de Biden, avec notamment, en termes de coopération internationale, changerait la donne et ne serait pas forcément une bonne chose pour la Corée du Nord. L'objectif, c'est donc avant tout, ces derniers jours, de provoquer la Corée du Sud et non pas les États-Unis.
Alors, provoquer la Corée du Sud, justement, on en parlait tout à l'heure, on a vu arriver dans le tableau, dans les relations justement avec la Corée du Sud, la fameuse sœur de Kim Jong-un. Comment ça se fait qu'elle déboule subitement dans le paysage, cette femme? Qui est-elle? Est-ce qu'elle prend vraiment de l'ascendant? Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
Alors, Kim Yo-jong est apparue progressivement, on la voit indirectement sur une photo en 2010, le jour où son frère est nommé à l'époque vice-président de la Commission de Défense Nationale, et puis elle est mentionnée officiellement seulement en 2014. Mmh. Elle va à partir de 2018 et notamment le rapprochement intercoréen s'illustrer.
C'est elle qui va aux JO dans mes souvenirs.
Exactement, c'est elle qui va à la cérémonie d'ouverture des JO et à partir de ce moment-là, elle va jouer un rôle de représentation vis-à-vis de son frère. Et ce rôle va considérablement se renforcer à partir de 2020 et notamment ces derniers mois puisque désormais elle signe des communiqués en son nom, que ce soit vis-à-vis des États-Unis mais aussi vis-à-vis de la Corée du Sud. Alors, elle n'a pas changé sa position institutionnelle en Corée du Nord. Elle reste première directrice d'un des départements du comité central du parti au pouvoir en Corée du Nord. Mais elle a un rôle en termes de communication qui est beaucoup plus important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle sert comme une caisse de résonance. Si vous avez quelqu'un en Corée du Nord, un haut fonctionnaire qui peut être remplacé du jour au lendemain, qui s'exprime sur un sujet comme les relations intercoréennes, il n'y aura pas du tout la même audience que si Kim Yo-jong, la petite sœur de Kim Jong-un, le fait. Et donc, elle est utilisée pour faire passer des messages, que ce soit vers Washington, mais aussi vers Séoul.
Donc, on a dit à un moment qu'elle pouvait servir d'héritière, etc. Tout ça, c'est des fantasmes un peu à nous autour de ce personnage-là. Ou est-ce que vraiment, elle prend une place qui pourrait à un moment être la place de numéro un? C'est possible?
Alors,
ça,
pour l'instant, Kim Yo-jong n'est pas décisionnaire. Ce n'est pas elle qui prend les décisions. Entre guillemets, sa voix ou sa plume est utilisée pour faire passer
c'est
des
du marketing
messages
à la nord-coréenne, au fond.
Un petit peu. En réalité, il y a deux oppositions. Vous avez d'un côté une légitimité dynastique. Effectivement, la Corée du Nord et la dynastie Kim, ce qu'on appelle la lignée de sang du mont Paektu, et Kim Yo-jong est, sur le plan horizontal, une successeur probable. Mais sur le plan institutionnelle, elle n'est que membre suppléante du bureau politique du parti, et son rôle institutionnel est donc limité. Et en Corée du Nord, elle s'exprime assez peu en réalité. Et elle semble avant tout utilisée pour faire passer des messages à l'étranger, parce que les médias étrangers, que ce soit aux États-Unis, en Corée du Sud ou en Europe, lui donne de l'importance, notamment du fait de son lien de parenté, évidemment, avec son frère.
On dit qu'elle est pire que lui. Là aussi, on fait jouer de la machine à fantasmes, on n'en sait rien, au fond, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a dans le ventre.
On n'a aucune information. Les rares informations dont on dispose sur Kim Yo-jong et qu'elle est en charge avant tout du culte de la personnalité de son frère, que lorsqu'elle est avec son frère, elle est dans un rôle d'assistance et en aucun cas de décision. Et les dernières informations dont on dispose ne montrent pas une évolution majeure de son rôle institutionnel en Corée du Nord.
Mais il y a déjà eu ça dans la famille Kim, quelqu'un comme ça à côté qui servait de caisse de résonance, comme vous dites, ou en tout cas qui était là pour passer certains messages, ou est-ce que c'est assez inédit comme rôle?
Alors, la sœur de Kim Jong-il, la tante de Kim Jong-un, Kim Kong-rae, a joué un rôle en termes de politique intérieure en Corée du Nord dans les années 90 et au début des années 2000, et elle s'occupait à l'époque de l'industrie légère, à une époque notamment où il fallait relancer l'industrie textile et autres, après des choix dans les années 80 qui s'étaient portés avant tout sur l'industrie lourde. Mais elle n'avait jamais eu un rôle entre guillemets à l'étranger. Là, le rôle de Kim Yo-jong est assez surprenant puisqu'elle s'occupe avant tout, alors même que son rôle institutionnel n'est pas celui-là, des questions internationales et elle semble être un vecteur, c'est-à-dire un messager au nom de son frère. Et ça, c'est un rôle nouveau en Corée du Nord.
Et alors, vous disiez effectivement qu'on l'entendait surtout à l'extérieur parce que j'ai pas le sentiment que ce soit une société très féministe, la Corée du Nord. Donc de toute façon, est-ce qu'elle pourrait réellement avoir une audience, voir un avenir, même si c'est pas à la tête du pays, mais voir un avenir en Corée du Nord?
Exactement, c'est un doute très important. C'est pour cela, quand on a vu émerger à la fin du mois d'avril, quand Kim Jong-un avait disparu pendant quelques jours, toujours l'idée que Kim Yo-jong serait la successeur naturelle et évidente de son frère. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Premièrement, elle n'a jamais été désignée comme la successeur. Deuxièmement, son rôle institutionnel, on en a parlé, est limité. Et puis troisièmement, vous l'avez dit, la société nord-coréenne est une société patriarcale, machiste. Et il y a extrêmement peu de femmes qui ont un rôle politique important aujourd'hui.
Antoine Baudens, puisque vous l'avez évoqué, est-ce qu'on a élucidé ce qui s'était réellement passé avant le confinement, la disparition momentanée de Kim Jong-un, des rumeurs d'opérations ou pas, de problèmes coronariens ou je ne sais quoi, ça a été élucidé, pas du tout?
Alors, la rumeur d'une opération continue, ce qui est très clair, il faut le rappeler, c'est que depuis le début de l'année, Kim Jong-un s'est absenté des événements publics 4 fois pendant 3 semaines. Cela n'est donc pas nouveau. La seule chose qui était nouvelle en avril, c'est qu'il n'avait pas participé aux célébrations pour commémorer ce qu'on appelle le jour du soleil, l'anniversaire de son grand-père et fondateur du régime Kim Il-sung. Et donc, il y avait une inquiétude. Le fait qu'il se retire, entre guillemets, de la vie médiatique, si on peut dire, de Corée du Nord, n'est en soi pas surprenant. Encore une fois, il y a des craintes de phénomènes épidémiques en Corée du Nord. Il limite donc ses déplacements, mais cela, en soi, n'est pas source d'inquiétude, ou en tout cas le signe qu'il y a un problème de santé important.
Alors, tu l'as dit, obésité, hypertension, problème cardiaque, il est totalement dans la cible des personnes à risque autour du Covid-19. Ça veut dire que la question de sa succession, elle est posée quand même? On la pose pour éviter de se retrouver au dépourvu ou pas du tout?
Alors, elle se pose et elle est importante puisque s'il arrivait quelque chose d'accidentel à Kim Jong-un, la question de la succession dans un régime autoritaire, dictatorial, puissance nucléaire, est extrêmement important, que ce soit en Corée du Nord, mais aussi pour nous, que ce soit en Corée du Sud, aux États-Unis ou en France. Or, il y a pour l'instant un manque de visibilité. La succession de Kim Jong-il à son fils Kim Jong-un s'est faite assez tard, puisqu'elle a commencé en 2008, alors que Kim Jong-il avait fait un AVC. C'est donc un accident de santé qui a provoquer la succession. Pour l'instant, Kim Jong-un n'a donné aucun signe qu'il avait entamé une succession. On manque donc, entre guillemets, de beaucoup d'informations au cœur du régime.
Ça reste un très jeune homme, hein. Il n'a pas 40 ans.
Il a moins de 40 ans, effectivement. Et puis surtout, ses enfants, s'il en a, sont extrêmement jeunes.
Merci beaucoup, Antoine Baudens. Merci vraiment beaucoup pour ces éclaircissements. La suite, ce soir, parle de villes qui veulent profiter de la fin du Covid pour se réinventer. Oui, j'ai mangé le jingle, c'est vrai.
Sur France Inter.
Voilà, maintenant on laisse partir le tapis, comme on dit. Toutes mes excuses, nous allons à Amsterdam tout à l'heure, ville de fêtards qui voudrait pouvoir se coucher moins tard. Le journal sonore de ce lundi viendra du Sénégal, le monde selon Trump et Grégory Phillips, avec un Trump, justement, tiens, qui repart en campagne et qui boit de l'eau très bizarrement. Et puis le monde d'après de Franck Madvon ce soir, ou comment, sous couvert de confinement, la liberté de la presse en a pris un coup dans le monde. Allez, à tout de suite, le tour de la planète, ce n'est pas fini. Voici Grégory Porter. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. When you lift me high. I tried to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. Grégory Porter, Revival sur France Inter. le bruit du monde. Ce soir est aux Pays-Bas. Et le Pays-Bas qui est d'abord celui... Voilà, j'attendais le bruit. Le bruit, c'est d'abord une barrière qui se lève. Vous savez que les frontières européennes rouvrent en grande partie ce lundi, ce qui devrait soulager les professionnels du tourisme. Mais dans certaines villes comme celle-ci, comme Amsterdam, on a pris goût à un peu de silence et un peu de distance. Écoutez comme c'est calme. Les habitants, généralement, étouffent avec le tourisme de masse. Là, ils ont repris goût à leur quartier. La mairie d'Amsterdam avait commencé doucement à prendre des mesures avant le confinement. Elle entend continuer, mettre un frein au bruit des fêtards, souvent avinés, biberonnant des pétards. Les célèbres vitrines aussi, celles des prostituées, pourraient bien déménager en périphérie. Un chiffre, juste avant d'aller voir ce que ça veut dire. Amsterdam, c'est moins d'un million d'habitants et c'est 18 millions de touristes annuels. Voici ce que ça veut dire et c'est Angélique Boin qui vous emmène. Un jeune homme assis au bord du canal, les pieds ballants, sur l'eau passe un coup de téléphone. À ses pieds, des canards s'en donnent à cœur joie. Tous les bateaux, bâchés, sont à quai, tandis qu'une maman se balade en plein milieu de la rue avec sa poussette.
C'est le quartier rouge ici.
Lex est guide touristique.
Avant la crise, parfois, je me trouvais dans un bouchon de promeneurs.
Ici, là ?
Oui, je ne pouvais plus bouger. Il y avait beaucoup trop de fêtes. C'était déjà la grande fête à partir de midi ici, dans la Warmoestraat, oui. Moi, j'aime bien la fête, hein, mais il y a aussi les locaux. Il faut y penser.
Ici, c'est la rue des Anglais, plaisante Lex en poursuivant sa visite. Le drapeau britannique flotte sur certains pubs ou en devanture de marchands de gaufres dont certains ont rouvert malgré l'absence de clients. Les prostituées, elles, n'ont pas eu l'autorisation de reprendre leur activité dans leur vitrine avant début septembre. À quelques rues de là, nous voilà chez Anita, une artiste militante anti-tourisme de masse. Elle vit ici depuis 40 ans dans une petite maison tout en hauteur. On y accède par un escalier étroit et encombré.
Bonjour.
On retrouve Anita dans son salon tout en haut, penchée sur un grand livre de photos du quartier.
Ah oui, le chef. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur la photo ?
Voilà, c'est le quartier rouge, juste avant le corona. C'est un grand party tout le temps. Beaucoup de jeunes qui viennent ici pour la drogue, pour faire la fête. Alors, ils n'ont aucune notion que toi, dans la nuit, tu veux dormir parce que le lendemain, tu as ton petit travail. Alors, blablabla, ils sont sous, ils ont fumé, et c'est sale. Tu vois partout des bouteilles cassées la nuit. Trop, c'est trop, quoi.
Et le Covid ?
Oui, là, pour nous, c'était un paradis, quoi. On a retrouvé notre ville et notre quartier, et les gens commençaient à se dire bonjour, et comment tu vas, et est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Tu vois, comme c'était avant. Pour nous, c'est notre vie, mais pour les gens, les cafés et tout ça, ils voient que des euros dans leur tête. Hein.
Des cafés qui ont demandé à étendre leurs terrasses lors du déconfinement, de quoi relancer la guerre avec les associations de résidents du quartier.
Mon nom est Machita Bourchkate et je dirige le conseil municipal pour le centre d'Amsterdam.
Dans son bureau qui surplombe le canal, la maire d'arrondissement rappelle d'entrée de jeu toutes les mesures déjà prises ces dernières années. Hausse de la taxe de séjour, interdiction des visites guidées dans le quartier des prostituées, interdiction des vélos à bière et des Airbnb dans certaines rues. La prostitution et la consommation de drogue sont légales dans notre pays, mais ne doivent pas, dit-elle, être une attraction touristique.
Le problème, c'est l'image. Avec le sexe et la drogue qui sont partout, on est attaché à nos libertés, mais on ne veut plus que cela soit une attraction touristique, parce que cela n'a pas vocation à l'être. C'est une part de la vie. Et l'image de la ville n'est donc pas la bonne. Il y a tellement de choses à faire ici. Regardez, il y a les canaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a l'histoire d'Amsterdam, les musées, l'art, et bien sûr, plein de gens sympas à rencontrer.
Et pour changer cette image, avant le Covid, la ville réfléchissait déjà à deux options radicales. Déménager les célèbres prostituées vers un centre érotique en périphérie de la ville ou encore restreindre aux seuls néerlandais la consommation de cannabis. La crise va sans doute les faire réfléchir car le sujet explosif enflamme les relations avec les professionnels du tourisme. Un secteur qui espère bien redémarrer le plus vite possible, explique Véronique Krohn, manager de l'hôtel Raw.
Amsterdam shouldn't complain because they benefit.
La ville d'Amsterdam ne devrait pas se plaindre car elle en bénéficie. Et en plus, depuis 2005, ils mènent une politique pro-hôtellerie. Et depuis qu'ils le font, le secteur explose. On est passé de 9000 chambres à 22000 environ. Et maintenant, ils disent, on n'en a pas besoin de ces touristes. C'est injuste. On a besoin de ces gens, car il y a eu plein d'investissements. On a besoin de clients. On en a eu un seul hier. C'était vous.
Angélique Bouin, une bande de touristes à elle toute seule. Merci beaucoup Angélique, à très très vite. Nous allons au Sénégal tout de suite, le Sénégal, pour découvrir notre nouveau journal sonore du jour, journal sonore d'un monde qui peu à peu se déconfine, s'étire en sortant de semaines parfois plombantes. Notre homme du jour s'appelle Pierre Diouf, il est piroguier, il a 32 ans. Il a monté il y a quelques années dans sa région natale une entreprise de tourisme avec ses frères. Avec le Covid, il a dû tout arrêter avant de se reconvertir. On remonte avec lui à ses premiers témoignages devant son WhatsApp qui date de la fin du mois de mars.
Donc, en fait, j'habite dans un village où on est au bord de l'eau. Donc, le delta du Sénégal, en fait, c'est entre la terre et la mer. Il y a plein d'îles, en fait. L'économie est basée sur le tourisme parce qu'ici, comme il y a des hôtels, des restaurants. Donc, dès le début, les gens, ils n'étaient pas vraiment conscients du virus. Donc, on disait que c'était un peu un truc de Touab, comme on dit ici. Touab, ça veut dire blanc. Mais depuis une quinzaine de jours, donc, on a du tout arrêté. Donc, tu le vois quand tu vas à l'embarcadère maintenant, où tu avais une cinquantaine de pirogues qui partaient tous les jours. Donc, plus aucune pirogue ne sort. Tu vois plus personne dans les rues. À Nangan, on est 3000 habitants. Avant, tu voyais tout le monde circuler toute la journée. Là, tu vois plus personne. Et avec le couvre-feu, à 20h, il n'y a plus personne dans les rues. Nous, on fait tout au jour le jour. On ne se projette pas trop. On s'occupe avec la peinture, le jardin, tous les travaux de la maison. Mais là, on s'est organisé à chacun son tour. Moi, si je cuisine le midi, le soir, c'est mon frère Paul ou l'autre frère, Albert ou JP. Donc voilà, on s'est organisé comme ça.
Ouais, amène le seau de la peinture. Comme ça, on va pouvoir mettre l'autre façade. On va mettre tout ensemble et on va tous les trois s'occuper de la première façade, après la deuxième et la troisième.
Ok.
Donc voilà, là, en faisant la peinture, on se met un peu une musique de notre star nationale Youssou Ndour. Hein. Donc ça nous encourage un peu à travailler à la maison en famille, à faire un peu de la peinture, à faire le jardin.
On n'a plus de boulot, hein, donc voilà. Les impacts aussi, c'est vrai que bon, au Sénégal, il n'y a pas de système de retraite. Donc en fait, nous, on est un peu les retraites des parents. Parce que c'est toi qui gères maintenant, mais malheureusement, avec Corona, ça va être très compliqué. Il y a des frais fixes tous les mois qu'on doit. Donc maintenant, nous, on est obligés, c'est dommage, mais on est obligés de supprimer. Parce que dans l'équipe, on était 7. Il y avait une femme qui s'occupait de tout ce qui est lavé, tout ce qui est. S'occupait de tout du matos, quoi. Donc cette femme-là, malheureusement. On va devoir lui demander d'arrêter demain. Donc ça, c'est un peu les impacts de Corona.
Ça fait bien de marcher un peu dans l'eau. Ça rafraîchit un peu. Voilà, on est à la plage. Hein, Donc voilà, là, il fait beau. On est au bord de l'eau. Hein. Il y a un magnifique coucher du soleil. Hein. Donc il y a pas mal de gens sur la plage et tout le monde vient se détendre ici. Voilà. De l'autre côté là-bas, on voit les jeunes, ils sont en train de faire la lutte. Parce qu'ici, la lutte, c'est le sport numéro 1. Hein. Donc il y a quelques jeunes qui sont en train de lutter. Ils ont mis une petite musique traditionnelle. Ça qu'on entend au fond et ils font la lutte tranquillement.
Vous l'entendez, l'activité reprend doucement chez Pierre. Il parlera demain de la reconversion professionnelle qu'il a entrepris avec ses frères. Merci vraiment à lui pour son témoignage. Vous retrouverez les dessins et la suite de son histoire aussi sur le site de Foule Continentale, sur les réseaux sociaux, sur franceinter.fr. Merci évidemment à Caroline Gillet qui fait venir jusqu'à nous ces petites pépites sonores et quotidiennes. Voici Desmona sur France Inter. Carry on. Been here. Mona, Carry On sur France Inter. Allez, on file aux États-Unis.
France Inter, un jour dans le monde. That information that was
false and fake. Le Monde selon Trump, signé Grégory Phillips. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne.
Avec nous évidemment, comme chaque lundi, depuis Washington. Grégory, l'épidémie de coronavirus, la crise économique, 3 semaines de manifestations autour de la mort de George Floyd. Ça va pas très très fort pour votre président en ce moment, non ?
Non, incontestablement, la séquence des 3 derniers mois n'est pas bonne pour Trump. Le Covid d'abord et les 115 000 morts américains, les millions de chômeurs et la récession. Et puis évidemment cet embrasement de plusieurs villes après la mort de Floyd. Le taux d'approbation de Donald Trump a chuté à 42%. Il était à 47-48 il y a encore quelques semaines. Dans les sondages nationaux, Trump est maintenant devancé de 8 points par son rival démocrate Joe Biden dans la perspective évidemment de la présidentielle de novembre. Alors c'est pas à vous Fabienne que je vais apprendre qu'il faut se méfier des enquêtes nationales, mais tout de même dans les états clés, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, là aussi le démocrate Biden est très en avance. Et puis au-delà des chiffres, on voit bien que Donald Trump ne sait pas trop comment gérer cette crise sociale qui a éclaté après la mort de Floyd à Minneapolis et comment s'adresser notamment aux Afro-Américains qui sont désormais moins de 8% à le soutenir.
Alors Donald Trump, Grégory, qui hier fêtait son 74e anniversaire,
exactement,
mais avec pas mal de questions autour de l'âge du président et aussi sa santé. Il y a eu plusieurs images et notamment celle-ci filmée hier lors d'une cérémonie à l'Académie militaire de West Point.
Oui, alors j'en parlerai pas forcément si Trump n'avait pas mis ça lui-même sur le tapis en tweetant samedi soir sur sa condition physique, parce que il y a effectivement cette image. Écoutez d'abord la bande son. Et on voit Donald Trump avoir du mal à descendre de la tribune de l'Académie militaire de West Point après son discours devant les cadets. Le président s'est donc justifié en expliquant que la rampe était trop raide et glissante et qu'il ne voulait pas tomber pour ne pas donner l'occasion à la presse de se moquer de lui. Mais le même jour, il y a eu un autre moment assez étonnant, au-delà de la rampe, où on a vu Donald Trump prendre un verre d'eau et avoir beaucoup de mal à lever la main droite jusqu'à sa bouche. C'est sa main gauche qui l'aide. On avait déjà vu Trump faire ce type de geste, mais bon, ça relance un peu les questions autour d'éventuels problèmes de santé. Vous l'avez dit, Donald Trump a 74 ans maintenant, depuis hier, le président américain le plus âgé à être candidat à sa réélection. Et il y avait eu à l'automne un rendez-vous médical dans un hôpital militaire de Washington, rendez-vous improvisé à l'époque et dont on n'a jamais trop su à quoi il était destiné.
Alors en tout cas, et en attendant, ça n'empêche pas Trump de reprendre la campagne à 4 mois et demi de la présidentielle avec un premier meeting samedi prochain normalement à Tulsa en Oklahoma.
Alors, vous avez sans doute entendu parler de la polémique. Au départ, le meeting était prévu vendredi 19 juin, le jour où les États-Unis commémorent l'abolition de l'esclavage. Et dans une ville, Tulsa, qui en 1921 avait connu sans doute les pires émeutes raciales de l'histoire du pays. Pas très connue d'ailleurs, pas souvent citée dans les livres d'histoire, mais avec entre 200 et 300 Afro-Américains qui avaient été lynchés par des Blancs. Donc, la date et le lieu étaient pour le moins maladroits, surtout en ce moment. Donc la campagne Trump 2020 a décalé ce meeting de 24 heures à samedi soir. Et puis l'autre problème, c'est le Covid. Est-ce que c'est bien raisonnable de reprendre les meetings dans une salle de 19 000 personnes? Pas vraiment, répond l'ancien patron de l'Agence américaine du médicament. Il s'appelle Scott Gottlieb, c'était hier sur CBS.
Nous avons des données du Centre des maladies infectieuses qui montrent que des rassemblements où des gens chantent ensemble, par exemple, dans des espaces fermés, peuvent contribuer à la propagation du virus. C'est vrai aussi pour les manifestations de ces dernières semaines, mais peut-être encore plus vrai dans les meetings politiques dans des lieux fermés. On sait que ces grands rassemblements vont accélérer la diffusion du virus.
Voilà Fabienne, et donc la municipalité de Tulsa demande aujourd'hui à Donald Trump d'annuler le meeting pour des raisons sanitaires. Les organisateurs d'ailleurs ont fait signer aux militants qui ont prévu d'aller à cette réunion publique une décharge disant que s'ils sont contaminés, ils ne pourront pas se retourner ni contre le président, ni contre la campagne Trump 2020. Mais au moment où on se parle, Fabienne, eh bien le retour en campagne présidentielle du candidat Donald Trump est toujours prévu pour samedi dans l'Oklahoma.
Grégory Phillips, merci beaucoup. Et à ce sujet, justement, on me dit dans l'oreillette qu'on va se retrouver bientôt, Grégory. On se parlera sûrement autour de ce sujet dès demain dans Un jour dans le monde. Allez.
Fabienne Saint-Hès, le 18-20.
Et le monde d'après, c'est avec Franck Madvon ce soir. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne.
Ce matin, Franck, une célèbre journaliste philippine qui s'appelle Maria Ressa a été jugée coupable à Manille dans une affaire de diffamation. Elle encourt 6 ans de prison. Cette affaire est emblématique, dites-vous, des atteintes à la liberté de la presse aux Philippines et d'une manière générale en Asie.
Oui, ce verdict a indigné les défenseurs de la liberté de la presse. Les ONG, les associations dénoncent une parodie de justice. Alors pourquoi de telles réactions? D'abord, il faut dire ou rappeler qui est Maria Ressa. Cette journaliste est devenue une figure de la presse mondiale. Elle a 56 ans, c'est une femme petite, cheveux courts, des yeux vifs. Elle a longtemps travaillé à CNN. Maria Ressa a pour spécialité les réseaux terroristes. En 2011, elle crée le site d'information Rappleur. On y trouve de nombreuses enquêtes sur la guerre contre la drogue menée par le président philippin Rodrigo Duterte. Une guerre qui a fait au moins 5600 morts, sans doute beaucoup plus. Pour faire simple, Duterte, Fabienne, a donné un droit de tuer à la police pour éradiquer les trafics. En 2012, Rappleur mettant en cause un homme d'affaires. Et c'est pour cette enquête que le journaliste Reinaldo Santos, l'auteur de l'article, et Maria Ressa, donc, ont été reconnus coupables de diffamation, et ce, en vertu d'une loi promulguée après la publication de l'article. Il reste libre en attendant l'appel.
Alors un verdict qui est un nouvel exemple, Franck, d'un climat très hostile vis-à-vis des journalistes aux Philippines.
Oui, le pays est 136e sur 180 au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Maria Ressa fait l'objet de 7 autres inculpations, notamment pour fraude fiscale, des charges qu'elle nie en bloc. Pour elle, aucun doute, ces poursuites sont politique. Le pouvoir philippin veut museler les journalistes. La preuve, le président Duterte a lui-même accusé le site Rappleur de propager des fake news. Autre exemple, le mois dernier, ABS-CBN, principal réseau audiovisuel philippin, a vu sa licence d'exploitation annulée. Le 5 mai au soir, toutes les radios et chaînes télé du groupe ont été coupées. Ou comment bâillonner une des rares voix critiques face à Duterte. Pour Duterte, être journaliste ne vous protège pas d'un assassinat si vous êtes un son of a bitch, je ne traduis pas. La presse philippine est régulièrement menacée et une nouvelle loi antiterroriste jugée liberticide doit être promulguée cet été.
Et la liberté de la presse semble donc reculer sur tout le continent asiatique en fait.
Oui, dans ce domaine on parle finalement assez peu de cette région du monde, mais c'est bien en Asie que cette liberté de la presse a le plus reculé ces dernières années. Une quinzaine de pays du continent ont perdu des places dans le classement de Reporters sans frontières ces deux dernières années. Il y a des cas emblématiques. En Birmanie, par exemple, il a fallu attendre 500 jours pour que deux journalistes de Reuters soient enfin libérés l'an dernier. Ils avaient été arrêtés lors d'une enquête sur les Rohingyas. En 2018, ils comptaient parmi les personnalités de l'année du magazine Time, aux côtés de Maria Ressa, justement, et du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi. D'une manière générale, ce sont les hommes forts qui commettent les atteintes aux libertés de la presse. Duterte, on l'a dit, aux Philippines, mais aussi Modi en Inde, Hun Sen au Cambodge. Ces dirigeants populistes ne supportent pas la contradiction. Dans ces pays, les journalistes sont montrés du doigt, des médias sont fermés sur la base d'arguments spécieux. Singapour a rejoint cette année la liste noire de RSF. Le pouvoir y applique des méthodes à la chinoise, pourrait-on dire. Surveillance, contrôle de l'information. La Chine, on le sait, est experte en la matière. Un phénomène accentué, bien sûr, par l'épidémie de Covid-19. Les régimes autoritaires n'apprécient pas que leur gestion de la crise soit remise en question. Ce matin, aux Philippines, Maria Ressa a commenté le verdict à la sortie du tribunal devant des caméras du monde entier. N'ayez pas peur, si nous ne pouvons pas demander des comptes au pouvoir, nous ne pouvons plus rien faire.
Le monde d'après. Et Franck Madvon, merci beaucoup, à tout de suite.